Si je vous disais à l'instant, levez-vous, allez mettre vos manteaux, mettez vos bottes, on sort, on s'en va. Est-ce que vous le feriez? C'est une bonne question. Sûrement que vous me poserez la question, on s'en va où, là? Ça va durer combien de temps, là? Mais je pourrais voir tout de suite si vous me faites confiance, si je ne vous donne aucun détail, là. Mais vous auriez raison de ne pas me faire confiance, parce que je n'ai pas le contrôle des événements, là, puis je peux faire un paquet d'erreurs. Mais Dieu, qui a le tout contrôle sur les événements, qui ne fait jamais d'erreur, qui sait exactement ce qui est bien, parfois va nous demander cela. Lève-toi, prends ton manteau, mets tes bottes, et on part, sans même indiquer où on va. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. On entre ce matin dans la deuxième moitié de la Genèse, la deuxième partie, qui est plus longue que la première, mais qui se concentre sur l'histoire de la rédemption, du salut des nations, le salut de l'humanité. Dieu a intervenu à plusieurs reprises, mais c'était plutôt d'une manière négative, en corrigeant, en punissant. Il a quand même fait grâce, on a vu sa grâce. Mais arrivé à l'histoire d'Abraham, Dieu descend sur terre, intervient pour sauver l'humanité, sauver les hommes. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 11. Nous sommes rendus au verset 10, Genèse 11, verset 10. Genèse 11, 10. On va lire une première section jusqu'au verset 26. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpacad 2 ans après le déluge. Et Sem vécut après la naissance d'Arpacad 500 ans. Et il engendra des fils et des filles. Arpacad était âgé de 35 ans lorsqu'il engendra Shéla. Arpacad vécut après la naissance de Shéla 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et Shéla était âgé de 30 ans lorsqu'il engendra Héber. Shéla vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Reu. Et Péleg vécut après la naissance de Reu 209 ans. Et il engendra des fils et des filles. Reu, âgé de 32 ans, engendra Serug. Et Reu vécut après la naissance de Serug 207 ans. Et il engendra des fils et des filles. Serug, âgé de 30 ans, engendra Nahor. Et Serug vécut après la naissance de Nahor 200 ans. Et il engendra des fils et des filles. Nahor, âgé de 29 ans, engendra Terah. Et Nahor vécut après la naissance de Terah 119 ans. Il engendra des fils et des filles. Terah, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nahor et Haran. Donc ici, on voit la postérité, la descendance de Sem, qui était l'un des trois fils de Noé, comme on l'a vu il y a quelques semaines. C'est celui qui a été béni. Celui qui l'a dit que l'Éternel est son Dieu. Et béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Et cette généalogie-là de Sem est un peu différente de la généalogie de Sem qu'on trouve au chapitre 10. Elle commence avec les mêmes descendants, jusqu'à arriver à Héber. À Héber, la généalogie au chapitre 10 passe par le fils d'Héber qui est Yoctan. Il a pour but de montrer plusieurs nations qui sont sorties, plusieurs familles qui sont sorties de la famille de Sem et qui ont été prospères un peu dans le nord de Canaan. Mais ici, la généalogie au chapitre 11, à partir d'Héber, passe par son autre fils qui est Péleg. Et elle a un but différent. Elle a un but de nous montrer que Abraham est le descendant direct de Sem. Abraham, c'est Abraham avant que Dieu change son nom. On va le voir plus tard dans les semaines suivantes. Donc, c'est le même, Abraham. Mais à cette époque-là, il était appelé Abraham. Son ancêtre, Sem, si on en croit le texte ici, il était encore vivant lorsqu'Abraham est né. Sem a vécu 500 ans après le déluge. Donc, Sem a eu l'opportunité, la chance, qu'on dit en québécois, là, de voir l'accomplissement de la promesse, de la bénédiction de Dieu sur sa descendance. Il a vu des familles sortir de lui. Il a pu voir la bénédiction de Dieu. C'était une période de l'histoire dans le vécu des 500 ans de la vie de Sem et qui nous conduit jusqu'à l'époque d'Abraham. C'est une période de l'histoire où on ne voit pas Dieu s'adresser aux humains. de leur parler. Peut-être qu'il l'a fait, mais ce n'est pas rapporté ici. Mais de toute façon, ils n'avaient pas besoin de se présenter aux hommes, puisque ceux qui avaient connu le déluge étaient encore vivants. Ils pouvaient témoigner de qui était Dieu. C'est lui qui avait donné instruction à Noé de construire l'arche. C'est lui qui était intervenu pour punir, pour détruire la terre, mais qui avait fait grâce à une famille. Ceux qui avaient connu cela étaient encore vivants, même à l'époque de Moïse, d'Abraham. Et ils pouvaient en témoigner. Donc, Dieu était connu. Donc, Abraham savait qui était ce Dieu-là. Et il adorait ce Dieu, ce Dieu vivant. Lisons la suite qui pointe l'histoire vers Abraham, à partir du verset 27. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père, Terah, au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. Ou Ur en Chaldée, c'est une autre traduction possible. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham se nommait Saraï, qui est plus tard devenue Sarah. Et la femme de Nahor, Milka, la fille d'Haran, père de Milka et père de Yitzka. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Terah fut de 205 ans. Et Terah mourut à Haran. Donc, il ne s'est pas rendu, lui, à Canaan. On voit ici une famille qui semble être tissée assez serrée. Ils habitent ensemble. Ils sont prêts. Ils voyagent ensemble. Ils sont tissés serrés au point où Abraham et ses deux frères vivent dans le même coin que Terah à Ur des Chaldéens. Ils vivent ensemble dans le même coin, dans le même patelin. Haran, l'un des deux frères, est mort en présence de son père, qu'il est dit. Il est mort à l'endroit où il est né, donc il a vécu toute sa vie près de son père. On ne sait pas à quel âge qu'il est mort, mais il était suffisamment âgé pour s'être marié. Puis on voit ici deux filles qui sont nommées, Milka et Yiska, filles d'Haran. Dans toute sa vie, il a vécu près de son père. Nahor, l'autre frère, lui a épousé sa nièce, c'est-à-dire l'une des filles de Haran qui est décédé. On s'était proche là, dans la famille. Même on apprend plus tard, on ne l'apprend pas ici, là, mais qu'Abraham qui a marié Saraï. Saraï était sa belle-sœur, ou sa demi-sœur, c'est-à-dire la fille de son père, mais avec une autre mère. On s'était vraiment serré dans la famille. Ils se tenaient. Je ne sais pas si c'était par nécessité, mais c'était un fait. Les membres de la famille de Terah étaient assez proches, même pour partir ensemble après la mort de Haran, mais ils sont partis ensemble. Il faut croire qu'ils ont amené leur serviteur, toute leur maison. Ils ont voyagé ensemble vers Canaan, mais jusqu'à Haran. Le voyage d'Ur en Chaldée, ou Ur des Chaldéens, jusqu'à Haran, c'est un voyage de 1000 kilomètres. À pied ou à chameau, je ne sais pas comment ils voyageaient, là. 1000 kilomètres, c'est long. Hein. C'est comme Montréal, Washington, aux États-Unis. Ou pour ceux qui viennent de la Gaspésie, c'est comme Montréal-Gaspé, même c'est un peu plus loin, là. C'est comme on rentre dans l'océan, là. Mais ils ont fait ce voyage-là à pied. Pourquoi ils ont fait ce voyage-là? C'est quoi le but de partir dans leur coin de pays où ils ont passé toute leur vie? Bon, on l'apprend dans la suite. Ils ont ensemble le chapitre 12, les 5 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Ou une autre traduction, c'est « Tu deviendras une source de bénédiction. » « Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Et Abraham prit sa femme, Saraï, son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent donc au pays de Canaan. En lisant le livre des Actes dans le Nouveau Testament, on comprend un peu plus ce qui s'est passé. Là. Il est dit, c'est le discours d'Étienne, lorsqu'Étienne a été capturé. Il raconte l'histoire des patriarches, puis il s'attarde un peu sur l'histoire d'Abraham. Puis il nous dit, dans Acte 7, Étienne répondit, « Vous, frères et pères, écoutez. Le Dieu de la gloire apparut à notre frère Abraham, à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, c'est-à-dire en Ur des Chaldées, avant qu'il habite Haran. Et il lui dit, « Sors de ton pays, de ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et habita en Haran. Et de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant, c'est-à-dire en Canaan. Donc, le voyage vers Canaan s'est fait en deux grandes étapes. Et même la deuxième étape est aussi longue. Si on part de Haran, qui est un peu dans le nord, pour descendre jusque dans Canaan, jusqu'au sud de Canaan, c'est un autre 1000 kilomètres. Il voyageait beaucoup. Donc, Dieu lui a commandé à Abraham, alors qu'il était encore dans son coin de pays, de partir vers un pays dont il ne savait même pas c'était où, il ne savait même pas le nom, de partir vers le pays que Dieu allait lui indiquer plus tard. Mais pourquoi toute la famille est partie? Pourquoi son père, Terah, a pris la décision de partir? Ça, on ne le sait pas, ce n'est pas dit. Mais peut-être qu'Abraham a confié à son père la révélation que Dieu lui avait dit, qu'il devait partir, et que son père l'a cru, et il est parti lui aussi. Ou peut-être que Dieu a tout simplement utilisé Terah, et il l'a convaincu qu'il devait partir, sans que Terah le sache. On ne sait pas. La volonté de Dieu s'est faite. Puis Dieu peut avoir parlé à Abraham à Ur des Chaldées, mais il peut lui avoir parlé aussi à Haran. Donc, il y a un peu d'inconnu ici, là, mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est que Dieu lui a dit de partir de sa terre natale, là, de son pays de naissance, et qu'ils sont partis ensemble. Mais quoi qu'il en soit, Haran n'était pas la destination finale. Donc, après être parti de Ur des Chaldéens pour aller jusqu'à Haran, c'était une escale. Dieu lui a fait savoir à Abraham, puis il est parti, après la mort de son père, en Canaan. Un autre long voyage. Ce que Dieu demandait à Abraham était un acte d'obéissance. C'était vraiment un ordre. Et il a pu voir si Abraham lui obéissait. Et il est dit, c'est pas pour rien que Dieu nous le dit ici dans le texte, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il a obéi. Ce n'était certainement pas quelque chose qu'il aurait fait naturellement. En plus, il était âgé de 75 ans ici. De quitter ses terres qui lui appartenait pour aller là où il n'avait aucune propriété. Ça ne lui plaisait sûrement pas de quitter son confort. Puis Dieu souligne ce sacrifice-là même. Il souligne ce que ça lui coûte. Il lui demande de quitter. Il dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, ce qui est précieux à tes yeux. Là où tu es attaché, quitte cela pour suivre ma voie. Ce que Dieu demandait à Abraham était aussi un acte de foi, même de foi énorme, parce que Dieu lui promettait quelque chose d'impossible. Parce qu'il lui disait, « Pars vers le pays que je te montrerai, et de toi sortira une grande nation. Ta descendance sera très grande. » Mais il lui dit ça alors qu'Abraham est rendu âgé de 75 ans et qu'il n'a pas d'enfant, et que sa femme est stérile. Il lui dit, « Pars. » Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que tu vas avoir une grande descendance. Ça prend de la foi pour croire cela. Croire quelque chose qui est impossible. En plus, il lui promet que son nom va devenir grand. Alors qu'il s'en va dans un endroit où il est inconnu. Il n'est même pas connu. Il lui dit, tu vas devenir connu. Ton nom va être grand. En plus, il devait devenir une source de bénédiction pour toutes les autres nations. Alors qu'il n'avait même pas de terre qui lui appartenait. Comment est-ce qu'il pouvait espérer devenir une source de bénédiction pour les autres? Il partait, lui, comme un nomade itinérant, sans foyer. Puis Dieu est allé jusqu'à lui dire même que toutes les familles de la terre allaient être bénies en lui. C'était un acte de foi qu'il demandait à Abraham. Puis Dieu a appelé Abraham pour le mettre à part. Puis il a répondu à son appel. Dans Hébreux 11, 8 et 9, il est dit, « C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu. » En partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. alors qu'il ne savait même pas qu'il allait le recevoir en héritage. Dieu ne l'avait même pas encore dit. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes. Quand il est parti, il ne savait même pas qu'il allait recevoir le pays en héritage. Mais il est parti. C'est plus tard que Dieu lui a précisé. Et lisons le dernier passage, à partir du verset 6 jusqu'à 9, chapitre 12, Genèse 12, 6. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et il dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là aussi un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négeb ou le Midi ou le sud, la région sud de Canaan. Enfin, Dieu précise à Abraham ce qu'il attend de lui après avoir parcouru 2 fois 1000 kilomètres. Là, Dieu lui révèle le pays où je t'ai envoyé, là, c'est parce que je veux te le donner en possession, en héritage. Tu vas devenir propriétaire de tout ce pays que tu viens de traverser. Là. Tu vas en être propriétaire, toi et ta descendance. Donc, enfin, Dieu lui révèle. Puis Dieu confirme en cela la bénédiction qu'il avait faite à son ancêtre Sem. Il avait dit à Sem qu'il allait être béni. Et même, il confirme la malédiction qu'il avait faite à Cam, son frère, par Canaan. Il avait dit, « Canaan sera esclave de Sem. » Puis on va voir plus tard qu'il va accomplir cette promesse-là. Lorsqu'il donne le pays en héritage aux fils d'Israël, les Cananéens sont délogés de leur pays et les quelques survivants deviennent esclaves des descendants de Sem, de la famille d'Abraham. Abraham est parti par la foi, sans voir ce que Dieu lui promettait. Mais même une fois rendu à destination, il devait continuer à marcher par la foi. Sans voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, le pays ne lui appartenait pas encore. Puis même lorsqu'il arrive, ce n'est pas pour rien que le détail est écrit là, il arrive enfin, après avoir traversé le pays, à Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient le pays. Après avoir parcouru 2000 kilomètres, il arrive enfin à destination, puis il voit que c'est occupé. Il n'y a pas de place pour lui. Les Cananéens occupent la terre où Dieu l'a envoyé. Donc, il devait encore continuer à marcher par la foi. Visiblement, là, il n'y avait pas de place pour lui. Puis même, il a dû déménager, continuer à voyager à plusieurs endroits. Il s'est rendu de Sichem dans une vallée entre les montagnes, jusqu'en haut des montagnes. Ensuite, il est allé dans le Négeb, le Midi. Il a dû voyager, il a dû être itinérant. Il est dit dans le psaume, c'est David qui... Dans le psaume 105, David dit... qu'Abraham était comme un itinérant, voyageait de terre en terre. Donc oui, il avait la promesse de Dieu, mais il ne voyait pas l'accomplissement encore. Il ne voyait pas ce repos qui est semblable au repos céleste que nous attendons et que nous ne pouvons pas voir nous non plus. Mais il marchait par la foi. Dans Acte 7, après que Étienne ait raconté l'histoire d'Abraham, il continue, il dit, « Il ne lui donna dans ce pays aucun héritage, pas même de quoi poser le pied. » Mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait même pas d'enfant. Mais Abraham a montré sa foi. Il a continué à suivre son Dieu. Puis il l'a démontré aussi par le culte qu'il a offert à l'Éternel. Ça aussi, ce n'est pas un détail négligeable. À 2 reprises ici, il est dit qu'aux escales qu'il a fait, lorsque Dieu s'est adressé à lui, il a construit un autel pour adorer son Dieu, pour intercéder, pour offrir des sacrifices. Il a indiqué à Dieu sa foi dans les promesses de son Dieu, en rendant ce culte. Il croyait à la parole de Dieu. Il a indiqué sa soumission aussi. Sa foi dans les promesses de Dieu l'a poussé à être soumis, à accepter le destin que Dieu avait déterminé pour lui, et à s'y soumettre volontairement. Il démontrait aussi sa reconnaissance. C'est un sacrifice de reconnaissance à son Dieu. La reconnaissance de l'avoir choisi, lui, de lui avoir fait l'honneur de lui parler, le Dieu créateur, le Dieu qui avait causé le déluge, le Dieu tout-puissant, s'abaisse à parler à un homme. Bon, Abraham lui a rendu de gloire pour ça. Puis sûrement qu'il l'a fait, il ne l'a pas fait en cachette, son autel. Ça devait être devant ses serviteurs. Ça pouvait même être devant les habitants du pays. Il n'a pas eu honte de confesser devant les habitants du pays qu'il était un adorateur du seul vrai Dieu. Donc, Abraham a pu comprendre la promesse de Dieu qu'un jour il allait posséder ce pays. Mais est-ce qu'il a pu comprendre pleinement tout ce que Dieu voulait dire lorsqu'il dit que toutes les familles de la terre allaient être bénies en son nom? Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, quand on continue à lire dans Exode, puis dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, puis l'histoire des rois, des chroniques, on voit un accomplissement qui commençait, un accomplissement partiel, mais de cette prophétie-là, où lorsque le peuple d'Israël continuait à confesser le nom de l'Éternel, continuait à être soumis, ils étaient heureux, ils étaient bien, ils possédaient le pays, et les nations autour pouvaient être bénies. Celles qui étaient pour Israël étaient bénies en Israël. Et les nations qui étaient contre Israël étaient maudites. Il y avait de lourdes conséquences qui pouvaient être détruites, défaites. Mais on ne voit quand même pas dans l'Ancien Testament que toutes les familles de la terre peuvent être bénies en Abraham. Ça restait quand même un mystère, une prophétie qui restait à être accomplie. C'est le Nouveau Testament qui nous montre toute la portée de cette promesse-là. Dans l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, où Jésus est présenté pour la première fois, Matthieu, dans le fond, nous présente, dans toute son histoire de Matthieu, nous présente Jésus comme le descendant d'Abraham. Et il commence la première phrase de Matthieu, il dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Jésus est présenté dès le début du livre comme le descendant d'Abraham. Et même à la conclusion du livre, dans Matthieu 28, Jésus s'approche de ses disciples et il leur parle. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations. » Donc, c'est moi, le descendant d'Abraham, qui vous envoie dans toutes les nations. « Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le pouvoir de Jésus s'étend dans toutes les nations pour faire des disciples. Comment ça, c'est possible? C'est parce que c'est ça l'accomplissement de la prophétie. Que toutes les familles de la terre peuvent être bénies dans la descendance d'Abraham, en Jésus. Et ce, jusqu'à la fin du monde. Son pouvoir n'a pas de fin. Je vous demande de tourner dans Galates. Dans Galates, chapitre 3. Dans le Nouveau Testament, Galates 3. C'est juste après Corinthiens. Avant Éphésiens. Ça explique le lien entre Abraham et Jésus. Galates chapitre 3, on va lire versets 8 et 9. Galates 3, 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, toutes les nations peuvent être bénies en Abraham s'ils partagent la même foi qu'Abraham, le croyant. Tout est une question de foi. Et ici, on continue au verset 16, dans le même chapitre, Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Ce n'est pas seulement Abraham que la promesse a été faite, c'est à lui et à sa descendance. Et il n'est pas dit à ses descendances ou aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. C'est Jésus qui est la descendance d'Abraham. Oui, la descendance d'Abraham est innombrable. On verra plus tard que c'est comme les étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer. Mais ici, le Nouveau Testament nous apprend qu'en Jésus, seule est toute la descendance d'Abraham, la vraie descendance d'Abraham. Il est la descendance d'Abraham. Si on continue au verset 28, Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Jésus à lui seul est la descendance d'Abraham. Mais tous ceux qui croient sont en Jésus. Tous ceux qui croient sont en Jésus et sont donc la descendance d'Abraham. Es-tu un descendant d'Abraham? Parce qu'ici, le Nouveau Testament, Galates, s'adresse à ceux qui sont croyants, comme Abraham était croyant. Pour être un descendant d'Abraham, tu dois être en Jésus. Tu dois être dans cette unité-là. Tu dois, comme Abraham, croire dans les promesses de Dieu, sans voir de tes yeux encore ce qui est promis. Par la foi, tu dois croire qu'un jour le repos céleste attend ceux qui croient. Tu dois croire que Dieu veut te pardonner, te faire grâce, même pour ce que tu as fait alors que tu ne croyais pas en Dieu, même pour ce que tu fais encore aujourd'hui de mauvais, et même pour ce que tu feras, Dieu veut te pardonner. Mais tu dois croire que Dieu, comme Dieu le dit dans sa parole, qu'il y a un seul moyen par lequel Dieu va te pardonner. Plusieurs se présentent à Dieu lui demandant pardon par différents moyens, ou espérant qu'un jour il lui pardonnera. Mais il y a un seul moyen par lequel Dieu s'engage à te pardonner. Et le restreint à ce seul moyen-là, c'est de croire que Jésus est venu sur la terre pour mourir pour tes péchés. Il est mort à ta place. C'est en croyant que tes péchés, tu devrais les payer. Tu devrais les payer de ta vie, mais tu n'as plus à le faire parce que quelqu'un d'autre l'a payé à ta place. Jésus, celui qui est le descendant d'Abraham, l'homme parfait, le Dieu venu sur terre, est mort sur la croix pour cela, pour payer pour tes péchés. Si tu le crois, tu t'identifies à ce Jésus. Tu deviens en lui, en Jésus. Et tu deviens un héritier de la promesse faite à Abraham. Et tu seras béni. Puis nous savons maintenant que la bénédiction de Dieu n'est pas seulement un pays sur la terre, mais un pays céleste, une ville céleste. Même dans Hébreu, on voit que même Abraham savait que sa cité future n'était pas sur terre. Il savait que c'était un aperçu, mais que sa cité était céleste, et il a cru en cela. Étant devenu la descendance d'Abraham, nous, les chrétiens, l'Église, l'expérience qu'Abraham a vécue et son exemple est très important pour nous. Son bon comportement devient un exemple pour nous. Et Dieu te dit, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, quitte ton père, le pays de ton père, quitte ton confort. Dieu a appelé Abraham de son pays et il t'a appelé. Contrairement à ce que certains croient, Dieu n'appelle pas seulement une petite partie des chrétiens à son ministère. Ce n'est pas une petite partie des chrétiens qui sont appelés au ministère ou au service. Tous les chrétiens sont appelés. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs pour Dieu. Tous ceux qui croient sont appelés à sortir de leur pays, à sortir de leur confort. Dieu t'a appelé à quitter ton pays, à quitter tes projets personnels, ce que naturellement tu aurais voulu faire, tes ambitions. Quitter ta sécurité, ta vie sans risque à Ur des Chaldéens. Quitter le monde qui a plein de beauté, plein d'attrait pour nos yeux. Être prêt à quitter cela. Quitter les gens qui ne croient pas en Dieu, t'identifier maintenant seulement à Jésus. Lève-toi et avance, suis les indications de Dieu, même si tu ne sais pas où ça te mène. Même si Dieu ne t'a pas encore montré où il veut que tu ailles. Nulle part la Bible nous dit que nous devons attendre que Dieu nous précise la destination avant de partir. Au contraire, à plein d'endroits, la Bible nous montre que Dieu veut qu'on parte, qu'on fasse un pas de foi, sans même savoir comment Dieu va nous utiliser. Quand je dis partir, ça ne veut pas littéralement dire de partir de Montréal et aller ailleurs. Ça veut dire quitter ce qui nous est cher, quitter son confort, être prêt à quitter ce qu'on aime pour Dieu. Abraham ne savait pas où il se rendait. Jésus, lorsqu'il a appelé ses disciples à lui, il a dit « Viens, suis-moi », sans même dire où il s'en allait. On a vu leur foi, ils l'ont suivi. La semaine prochaine, c'est toujours émouvant de voir une cérémonie de baptême. On a plusieurs personnes qui se font baptiser ici. Et pour plusieurs d'entre eux, c'est le début de leur vie chrétienne. Plusieurs d'entre eux, c'est l'un des premiers pas d'obéissance qu'ils font. Un peu à l'aveugle, sans savoir où Dieu va les diriger, comment ils vont servir dans son Église. C'est un pas de foi. Souviens-toi du jour de ton baptême, de ton premier pas de foi, où tu t'es engagé à suivre Jésus. Être chrétien, c'est d'avoir commencé une nouvelle vie par la foi, mais c'est aussi de la continuer par la foi. Même quand on a avancé un bon bout de chemin, parfois on ne voit même pas pourquoi Dieu nous l'a fait faire ce chemin-là, ou il peut nous révéler en partie, mais il te demande de faire une autre étape, de défaire tes tentes, d'aller encore plus loin, de suivre ses indications. Et comme Abraham a dû se lever plusieurs fois puis repartir, il te demande de te lever à nouveau, de lui faire confiance. Dans Matthieu 19, 29, Jésus dit, « Quiconque aura quitté, à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant, ou terre, sa propriété recevra beaucoup plus. Et il héritera de la vie éternelle. C'est ceux qui marchent par la foi qui héritent de la vie éternelle. Comme Abraham n'a pas eu honte de construire des autels puis de confesser qu'il est un adorateur du seul vrai Dieu, n'aie pas honte de Jésus non plus. Que la honte d'être parmi un peuple païen qui ne croit pas en Dieu ne t'empêche pas d'avancer. Confesse que Jésus-Christ est ton Dieu. Et tu vas pouvoir avancer. Jésus le dit dans Matthieu 10, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Dieu te demande de te lever, de te préparer, même si tu ne sais pas comment Dieu va utiliser les capacités que tu développes, les connaissances que tu acquiers, comment il va t'utiliser avec un caractère changé. Même si tu ne sais pas pourquoi, fais-le, c'est une marque de confiance. Dieu te demande de te préparer, premièrement, en te formant. Et étudie la Bible avec sérieux, avec un désir ardent, comme si Dieu t'appelait à être pasteur, professeur de théologie. Apprends à prier avec intensité, comme si ta vie en dépendait. Apprends à présenter l'Évangile, même d'une manière ferme, à repousser les faux discours. Comme si Dieu allait faire de toi l'évangéliste pour tous ceux qui t'entourent, tes voisins, tes collègues de travail, les gens dans ta famille. Prépare-toi à évangéliser comme si Dieu avait destiné tous ceux qui t'entourent à venir à lui par ta parole, par ta bouche. Dieu te demande de te préparer aussi en rejetant le péché. Comme il a mis Abraham à part, il l'a sorti du milieu païen de Ur en Chaldéen. Les archéologues qui ont fait des recherches ont vu que Ur en Chaldéen, oui, c'était très prospère, mais c'était une nation qui faisait des abominations, des horreurs à l'Éternel. C'est peut-être pas pour rien que Dieu l'a sorti de là. On est dans un nouveau pays où il pourrait commencer à zéro. Dieu te demande de te voir comme mis à part du monde. Donc, mis à part du péché. Tu dois te préparer. Le péché ne va pas s'en aller tout seul de ta vie. C'est un combat dans lequel tu dois t'engager et persévérer, une étape de plus. Tu as peut-être fait un long chemin, mais on ne doit jamais s'arrêter. Tu ne pourras plus suivre Jésus si le péché t'empêche d'avancer. Ça devient comme un boulet au pied, là. Puis Jésus s'en va, puis te demande de le suivre, puis tu n'es plus capable. Rejette le péché. Dieu te demande aussi de te préparer en servant son Église. Même si tu ne sais pas encore pourquoi Dieu te demande de faire telle ou telle chose, Dieu t'a placé dans une église de quartier où tu dois prier pour telle personne, tu ne sais pas pourquoi, ou peu importe le service qu'il te demande, avec les ressources que tu as, les capacités qu'il t'a données, les capacités qui te permettent de développer, sois à l'écoute de Dieu, vois les opportunités de servir qu'il place sur ton chemin. Sois prêt même à donner de ton temps, donner de ton argent, sois prêt à tout donner pour Dieu, de bon cœur. Puis même si tu as déjà parcouru un long chemin, Dieu te demande d'avancer encore une autre étape vers le Négeb, vers le Midi. Offre-toi toi-même en sacrifice vivant. Comme Abraham a offert un sacrifice, aujourd'hui, ce que Dieu te demande, la manière qu'il veut que tu l'adores, c'est en offrant toi-même comme un sacrifice vivant. Être disposé en toute chose. Puis ça va être un culte que Dieu va apprécier. Tu seras béni, toi et ta famille, en Abraham, en Jésus, dans l'Église de Dieu. Amen.